Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 13 octobre 2025. On se retrouve avec un Bitcoin en léger rebond pour l'instant, qui quand même nous a conduit jusqu'à cette nuit quasi 116 000 $. On a un Ether qui rebondit de plus 9%, toujours en recul de 8,50 en hebdo. C'est le BNB qui n'a de cesse de pousser. Cette baisse fulgurante n'a eu d'effet que de tendre le ressort pour la troisième crypto-monnaie du marché, 1 300 $, 180 milliards de cap, 14%. Sur les dernières 24 heures et même dans le vert, que ça soit en hebdo ou en mensuel, c'est un des très rares. On a également plus 10% pour Dogecoin, 9% pour Cardano, Chainlink, mais on voit qu'on a des contre-performances qui vont de moins 10 jusqu'à moins 20% en hebdo, notamment pour Hyperliquid. On a Zcash qui continue également de pousser, 82% en hebdo, 280 $, 470% sur le mois. Bitancer Tao avec les 34% journaliers, 400 $ là aussi. Très très grosse remontada, plus 27% en hebdo. On a 18% pour le WLF, pour le token et le projet de Donald Trump, donc, et de sa famille, puisqu'on ne sait pas exactement qui il y a derrière. Plus 11% pour Ethena, plus 10% pour Ethereum Classic, plus 13,56% pour Pudgy Penguins, Pumfund plus 11%, plus 10% pour Sei. Et on clôture le top 60 désormais à 1,2 milliard de capitalisation. Donc depuis que ça s'est actualisé, on voit malgré tout qu'on a eu un recul profond par rapport au top 50-60 où on était autour de 1.5, 1.55 la semaine dernière et désormais on est plutôt à 1.25. Donc certains altcoins sont en train de rebondir comme des fusées certes, mais on verra dans un instant que c'est loin d'être le cas pour l'immense majorité. Le crypto Fear and Greed est passé dans le 38, donc la peur, il était même au cours du week-end très proche de l'extrême peur et donc c'est à l'image de ce mouvement complètement fou qu'on a connu dans la nuit du 10 au 11 octobre avec un Bitcoin qui est passé de 123 000 $ à 102 000 $. C'était la première bougie intraday où on a fait une amplitude de 20 000 $ complètement fou. Et du côté des altcoins, comme vous le savez, on a eu des alts qui ont dévissé de moins 20, moins 30, moins 40 dans le gros, dans le dur. Et certains, par manque de liquidité, notamment sur les échangeurs centralisés, ont vu des baisses jusqu'à moins 75 à moins 99%. Alors bien entendu, ça n'a pas duré et certains traders aguerris ou snipers ont chopé la balle au bon et en ont profité, mais pour l'instant ça laisse se poser quand même pas mal de questions sur la réouverture des marchés. Aujourd'hui il y a un jour férié du côté des États-Unis, mais il y aurait la plupart des marchés qui quand même sont ouverts, donc on va voir ce que ça va donner sur les 24-48 heures roulantes de ce début de semaine. C'est encore un peu trop tôt pour se prononcer. Là du côté du marché crypto, on a eu des clôtures hebdo qui ont été loin d'être moches, notamment du côté de Bitcoin et de Ethereum et quelques autres, comme on l'a vu pour Tao, etc. Mais on est aussi sur ce moment où on est descendu si bas que on a aussi ce short squeeze en cours de route qui est en train d'être fait. Les personnes qui shortent sur support se font tout aussi déglinguer que les personnes qui prennent des méga longues avec levier quand on est très haut et sous résistance. Et donc, on a besoin encore d'un petit peu de temps pour voir exactement la direction que va choisir de prendre le marché. Ceci étant dit, comme le mettent en avant aussi certaines personnes sur les réseaux sociaux, on en discutait en fin d'émission, donc c'était samedi dernier. Le but là par rapport à cette liquidation, c'est probablement de faire sortir un maximum de gens avant potentiellement d'essayer d'amener les prix un peu plus haut. La problématique à laquelle on est confronté malgré tout, et on va pas la mettre de côté, c'est pas la poussière sous le tapis et on regarde que ce qui brille, c'est qu'on a les alts qui se sont fait laminer complètement. On a 1,6 million de traders qui se sont fait liquider pour 19 milliards au total et c'est la plus grande liquidation de l'histoire de BTC sur l'open interest quand on regarde notamment les data on-chain. Donc vraiment, c'est pas un événement anodin et à prendre un peu par-dessus la jambe. Enfin voilà, il y a un truc qui s'est passé, d'autant plus qu'on peine à savoir exactement justement ce qui s'est déroulé, notamment sur les échangeurs de type Binance où on a eu des Atom, des AAV, des Chainlink qui ont dévissé de moins 75 à quasiment 0 $, moins 100% du côté de Atom. Donc franchement, voilà, ça laisse quand même se poser pas mal de questions. Le jour où Bitcoin lui-même recule de 30, 40, 50%, Ethereum probablement fera bien pire, Que va-t-il advenir du côté de ces altcoins qui aujourd'hui, d'un point de vue de la liquidité, n'ont même pas su absorber ce micro-choc? Alors certains disent que tout est parti de Paris du côté de Etena. On avait également une whale du côté de Hyperliquid qui a ouvert un short donc juste 5 minutes avant que tout se mette à dérouler avec 100 millions de valeur nominale, plus du levier derrière, etc. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir faire très attention à ça. Et je pense que pour les particuliers, il faut le rappeler, le trading court terme est vraiment très dangereux. Et à partir du moment où vous mettez du levier, même un simple x2, sur ce type de mouvement complètement erratique et imprédictible dans leur vigueur et dans leur profondeur, vous pouvez absolument tout perdre. Et c'est un peu dommage hein, de jouer au coup de dé, malheureusement, pour l'ensemble de son patrimoine financier. Bien entendu, je ne suis pas là pour faire des leçons ou quoi que ce soit, mais plus que jamais, si on doit en retenir quelque chose, il faut avoir une gestion du risque au poil, très fine, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ne pas mettre de levier, ou si vous voulez à tout prix faire du levier, vous le faites avec 5 ou 10% de votre patrimoine crypto, et derrière, vous verrez que malgré tout, le hold long terme, probablement en Bitcoin, surperformera dans les prochaines années les carabistouilles que vous avez essayé de faire en trading court terme, d'autant plus avec du levier, mais ça, il faut avoir suffisamment d'années d'expérience malheureusement pour s'en rendre compte. Et je comprends que les particuliers, notamment les nouveaux arrivants, font exactement toutes les bêtises que nous on a fait justement pour ceux qui étaient déjà là en 2017 à cette période, et pour ceux qui étaient là en 2020-2021 tout pareil. Donc évidemment, vendredi juste avant la clôture, on a Donald Trump qui veut mettre 100% de tarifs sur la Chine au cours du week-end. Finalement, c'était juste une incompréhension. Et hier soir, juste avant la réouverture des futurs des marchés, Donald Trump, dans son avion présidentiel, a déclaré qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'ils allaient trouver un accord un peu à l'amiable et que c'était peut-être juste une incompréhension entre les deux superpuissances. Donc évidemment, ça a motivé le rebond, et on le verra au niveau des indices et des futurs, même du côté des US, ça risque d'ouvrir dans le vert avec un énorme gap. On avait Sveibull qui nous disait que l'or en dollars ajusté à l'inflation US est désormais en record historique, un plus haut que la bulle précédente de 1980, et un graphique qui nous ramène 75 ans en arrière. Donc l'or qui est vraiment dans un bullrun séculaire, j'ai envie de dire, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Paolo Arduano, donc le nouveau CEO de Tether, qui nous disait que le Bitcoin et le Gold seront les monnaies qui perdureront le plus à la fin, quand il peut-être un jour ne restera plus rien. Alors j'espère bien entendu qu'on arrivera au niveau des monnaies fiat à trouver un système de fonctionnement, puisque ça fait partie des postulats, notamment sur le simple fait qu'on pourrait voir en effet un jour un Bitcoin à 1 million si les monnaies fiat auxquelles on compare à ce jour, on est bien obligé de comparer à quelque chose, venaient à s'effondrer complètement, comme ça l'a déjà fait dans bon nombre de pays, la Turquie, certains pays d'Amérique latine, notamment comme le Venezuela. Voilà, aujourd'hui, on a vu des fiat qui ont perdu 99,9% de leur valeur et qui ne sert quasiment plus à rien. Donc, c'est vrai que dans ce contexte-là, bien entendu qu'on pourrait avoir un Bitcoin même à plusieurs millions de dollars, mais sur l'aspect humain, ça serait assez dramatique. Donc j'espère vivement qu'on n'en arrivera pas là un jour, bien entendu. Grégory Raymond qui met en avant donc que la Chine répond à la relance commerciale de Washington, blablabla. Ça, bon, ça va évoluer dans les 24-48 heures. Donc bien entendu qu'on se prononcera qu'à compter de mercredi, voire la fin de semaine, pour y voir un peu plus clair. Ceci étant dit, de ce que j'ai compris, pour l'instant, ça reste en vigueur au 1er novembre d'avoir ces fameux tarifs de douane de 100% sur la Chine. Donc on a une fenêtre de tir d'une quinzaine de jours où ça va être soit la Chine et les États-Unis se mettent d'accord, ou on renforce cet aspect un peu de guerre entre les deux superpuissances et ces deux grands continents, et où ça va déraper derrière si vraiment on a une mise en place de tarifs additionnels entre la Chine et les États-Unis. Je pense que ça peut nous refaire quelque chose d'un peu sale. Et en attendant, on avait donc Peter Schiff, le Goldbug, comme il l'appelle chez les vieux boursicoteurs et les amoureux des métaux précieux. Il disait que le carnage des cryptos se poursuit. Bon, systématiquement, lui, il tape sur les cryptos, Bitcoin, etc. C'est pas nouveau. Mais par contre, ses targets sont loin d'être folles. Si jamais un jour on a un bear market, effectivement, il disait qu'on pourrait revoir Bitcoin autour de 75 000 dollars, et que Ether, si un jour il travaille longuement sous les 4 000, et bien, on pourrait le revoir autour de 1 500 $. C'est des objectifs lors d'un bear market qui sont loin d'être inatteignables. Donc, pour une fois, oui, voilà, le permabear est sorti comme d'hab pour dire « Ah, regardez vos cryptos, c'est de la merde ». Mais d'un autre côté, les targets, pour une fois, n'étaient pas si folles que ça. En tout cas, à la baisse, ça peut être tout à fait atteignable. Même, je pense qu'on pourrait aller plus bas que 75 000 pour Bitcoin. Ether, bon, 1 500, ça me semble pas déconnant, tout ce qui se passera entre 1 500 et 2 000, peut-être en bear market, mais même pour Bitcoin, aujourd'hui on a une moyenne mobile 200 semaines autour de 52 53 000, ça me semble pas être la mer à boire si on venait à avoir un top autour de justement les prix qu'on connaît maintenant, 125 000, et peut-être, comme on l'a vu notamment la dernière fois avec l'analyse on-chain, se projeter quelque part en top final autour de 140 150 000 dollars. James Von Straten nous partageait également la performance de prix du BTC et il disait que la comparaison au moment du Covid est injustifiée et à juste titre, puisque ici ce ne sont que des leviers qui se sont fait pulvériser. Il n'y a finalement pas eu tant de déroutes que ça sur le côté spot. Pour l'instant, on n'a pas eu énormément de ventes, mais on continue d'avoir des giga whales et notamment des whales OGs, c'est-à-dire des personnes qui n'ont quasiment jamais bougé de BTC de leur wallet de 10, 13, 15 ans, ceux qui étaient là vraiment pour tenir les murs au début. Et on continue de voir comme ça des bitcoins de temps en temps, de vieux wallets qui se réactivent et qui vendent. Donc bon, ça continuera d'être au travers du temps. Je ne sais pas si on peut interpréter ça véritablement comme un signal, mais force est de constater que oui, ceux qui étaient là depuis plus de 10 ans, entre 10 et 15 ans, bah, eux, ils s'en foutent un peu qu'ils soient à 100 000, 120 000, 150 000. Ils ont des gains en dizaines, en centaines de millions. Donc ils prennent des profits petit à petit. Et c'est ce qui fait que bah, on a un transfert de richesse qui se fait des très anciens vers les nouveaux. Voire, quand on parle de nouveaux, il ne faut pas sous-estimer la propension à absorber au fur et à mesure le flux par les ETF, les BlackRock et compagnie. Bon, c'est pas BlackRock directement qui achète pour eux, hein, c'est des clients, des milliers, des centaines de milliers de clients derrière. Mais petit à petit, on sent que bah, le Bitcoin est en train de faire son chemin, de tracer sa route. Et je pense qu'il continuera de le faire quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte quelque part. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du marché crypto. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont en train de devenir Bitcoin maximalistes, vu comment ça s'est passé du côté des altcoins. Donc peut-être que, comme disent les contrariens, après avoir dégoûté tout le monde et liquidé tout le monde, eh bien on aura enfin l'alt-season. Je ne peux que aller dans ce sens-là. Hein. Je voudrais, comme vous tous, que ça se passe aussi bien. Mais je pense que l'alt-season, au sens du terme de 2017, 2018, 2020, 2021, ça ne se passera plus. Et qu'aujourd'hui, il faut être extrêmement sélectif sur les dossiers dans lesquels on investit, et notamment pour du long terme. Et quand on parle de moyen très long terme, je pense qu'à ce jour, il n'y a que Bitcoin qui tienne, justement, puisque d'un cycle sur l'autre, les alts, c'est un peu hein, comme jouer au casino ou lancer une pièce en l'air et se dire bon, ben, on verra ce qui se passera. Donc ça devient assez difficile finalement de se dire qu'on voudrait conserver beaucoup d'altcoins, 5-10 lignes pour du long terme. Pendant les phases d'expansion, à la rigueur, pourquoi pas, mais pendant les phases ben, justement un peu plus baissières, je pense qu'il n'y a que Bitcoin et le cash qui règne sur le marché crypto. Et on clôturera, bon, c'est peut-être plus un billet d'opinion et encore peut-être pas que, mais voilà, Grégory Remond qui disait qu'un jour il faudra ouvrir une enquête sur l'entourage de Trump et les délits d'initiés crypto. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui s'est passé on-chain, on a eu d'énormes ventes qui ont été propulsées quelques minutes à peine avant qu'on ait cette déroute. Alors du côté de Bitcoin, ça tanque très bien entendu. On a aujourd'hui une profondeur de marché qui est tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, comme l'ont fait remonter bon nombre d'utilisateurs, ça se passe très bien pour les marchés comme Bitcoin, voire même Ether. Ether a plutôt pas mal tanké. Mais quand on regarde ben, les tokens qu'on a vus l'autre fois, du Chainlink, du AAV, du Atom Cosmos, du Polkadot, je crois que Jupiter aussi s'est complètement fait pulvériser. On avait Hype aussi qui a bien déroulé. Et bien voilà, on manque de profondeur, on manque de liquidité. C'est juste pas possible aujourd'hui qu'on parle d'un Binance et qu'on voit un Atom Cosmos aller quasiment à zéro. Et quand on sait à quel point parfois les oracles en plus, c'est-à-dire ce qui prend le prix du côté on-chain pour faire le pont entre la vie réelle et le on-chain, etc., sont pas super dans ces moments-là, sur les pics de volatilité, efficaces et efficients dans la rapidité à laquelle ils permettent de récupérer les prix, ça crée des décalages qui sont monumentaux pour le coup. Et on a les market makers qui retirent la liquidité dans ces moments-là, très certainement, qui ne veulent pas bah, se faire exploser en plein vol. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a quand même perdu des plumes sur ce mouvement. mouvement. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, bah, si vous vous retrouvez avec vos atomes à 3-4 dollars, que vous le voyez passer à 0.01 ou 0.05, vous ne pouvez même pas ni acheter ni vendre sur ces endroits-là. Vous êtes obligé déjà d'attendre que votre échangeur de prédilection se reconnecte. Alors apparemment, du côté des DEX, c'était peut-être un tout petit peu mieux, mais de ce que j'ai entendu, c'était pas beaucoup mieux. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes sur les échangeurs décentralisés. Et vous êtes obligé d'attendre que cette marée passe, qui vous empêche à la fois d'acheter et à la fois de vendre. Et quand, une fois que les cadavres réémergent et que les plateformes réouvrent leurs portes, votre token, il est déjà remonté quasiment au prix d'origine. Donc vous n'avez rien pu faire pendant ce moment-là. Ceci étant dit, ceux qui ne sont pas en levier, peut-être que ça vous a sauvé justement de faire des bêtises, mais ça, c'est encore un autre sujet. 3850 milliards, donc on a sauvé le soldat Ryan, on était descendu à 3240, donc c'est plutôt pas mal, hein, on a réintégré notre box ici. Du côté du chart comme ça sur le crypto total, ça sera une énorme mèche à laquelle il va falloir se référer pour la suite. Du côté des charts d'Alcoin, on va être obligé de passer tous les charts, notamment de Binance, plutôt sur Coinbase, sur Kraken ou sur d'autres, parce que les mèches du côté de Binance ont été tellement folles qu'on ne peut plus quasiment faire de chartisme, au moins pendant quelques semaines, voire quelques mois, tellement cette bougie va ressembler à rien en hebdomadaire. Donc ça aussi, c'est une problématique. Ça a un peu cassé les charts, j'ai envie de dire, ce qui vient de se passer. Le crypto total 2 des alts, 1560 milliards. Là, on a encore plus sauvé le soldat Ryan. On était venu à 1200 sous le support des 1250-1300 et on a clôturé donc autour de 1500 et des brouettes. Donc aujourd'hui, on est toujours sous la zone de pivot. Pareil, en termes de liquidation, je vous dis, hein, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une telle bougie. On en avait peut-être eu début 2025 ici, et sinon, il faut remonter à ce qui s'était passé hein, précédemment, en mai 2021 ou quelque chose dans ces eaux-là. En tout cas, en termes d'amplitude et de force relative par rapport au marché, les oscillateurs, eux, sont toujours... le RSI, bon, on ne peut pas dire qu'il est baissier en soi pour l'instant. Par contre, le MACD, hein, quand on a tout qui croise comme ça très haut en hebdo, franchement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre hein, pour cet automne. Donc, si jamais là, ça a permis justement de tout nettoyer en profondeur et que les market makers et que l'argent est prêt à se déverser, qu'on a du cash, etc., ça va être maintenant. C'est entre mi-octobre et mi-novembre, grosso merdo. Ça ne va pas attendre printemps 2026 ou que sais-je. Sinon, ça voudra dire qu'entre-temps, on a déroulé beaucoup plus à la baisse et je pense que ça sera quand même hautement plus désagréable. Le crypto total 3, donc, qui exclut Ether, on était venu à 768 milliards. On est de retour à 1000. Pareil, juste sous le point pivot et donc statu quo pour l'instant. On voit qu'on a eu une semaine de volume assez extraordinaire, volume qu'on n'avait pas vu depuis décembre 2024. La dominance des stablecoins 0.07, donc elle était montée à 0.08. Là pour l'instant, pareil, on est sous résistance, c'est redescendu, la ferveur se calme un petit peu et la Bitcoin dominance pour sa part, après avoir tapé quasiment 63.5 et de retour à 59.5, ce qui fait ce matin bien entendu qu'on a un gros rebond du côté des alts, mais il va pas falloir prendre ça pour acquis immédiatement, puisqu'on aura besoin sur ce début de semaine de valider pas mal de choses, notamment du côté des États-Unis et notamment d'un point de vue purement politique à présent par rapport à la Chine, puisque faut pas oublier que malgré ce que dit Donald Trump un coup oui un coup non sur les réseaux sociaux, il y a de vrais bails qui sont en train de se passer et je pense qu'à force la Chine aussi ils vont finir par prendre la mouche et si eux ils commencent à se braquer, les États-Unis derrière pour vu la personnalité aussi de Donald Trump, pour garder la face, vont vouloir aller quelque part un peu dans cette escalade des droits de douane et je sais pas jusqu'où on peut aller. Donc c'est plutôt ça sur la fin d'année qui m'inquiète que le reste, hein, bien entendu, mais voilà, c'est quand même un sujet qui est important quand on est sur les marchés et qu'on spécule sur ces derniers. Du côté de Bitcoin, donc on a eu la mèche qui était descendue, comme on l'a vu tout à l'heure, 107. Donc on a eu un micro gap qui a quasiment été comblé quand on regarde sur le BTC1 en journalier, mais bon, rien d'inquiétant de ce côté-là, si ce n'est que pareil, les oscillateurs, hein, ils sont pas fameux pour l'instant, donc on va voir comment va se passer le début de semaine, mais bon, du côté de Bitcoin, certes, l'amplitude n'a pas été telle que ce qu'on a pu l'observer du côté des alts, mais c'est pas non plus, au vu de la phase de marché et au vu du timing de fin d'année et de fin de cycle de 4 ans, Là aussi, je continue de dire le cycle de 4 ans, puisque depuis pas mal d'itérations quand même au cours de la vie de Bitcoin, eh bien c'est quelque chose qui a fonctionné. Est-ce qu'on part sur quelque chose de complètement différent pour 2026? On aura les réponses qu'en 2026. Donc aujourd'hui, je suis obligé de me baser encore un minimum sur la saisonnalité, sur la cyclicité et le timing justement de ce cycle de 4 ans qui nous dit que peut-être Bitcoin pourrait toper incessamment sous peu, sous quelques jours à quelques semaines maximum. Après, est-ce que derrière, ça vaut le coup, comme d'habitude, de sortir, comme disaient des personnes des fois dans les commentaires quand ils se projettent sur 5 ou 10 ans? Il y en a qui sont résolument convaincu qu'aujourd'hui, en ayant un Bitcoin entre 100 et 125 000, ça reste très intéressant en se disant que dans 5 ou 10 ans, on sera à 500 000 ou à 1 million sur BTC. Donc voilà, c'est une manière de penser qui est tout à fait louable et légitime. Et il y en a d'autres qui sont rentrés autour de 15-20 000, dont je fais partie, qui aujourd'hui voient le Bitcoin beaucoup plus haut que leur prix d'achat et qui se disent que si oui, en cours de route, que ça soit en 2026, 2027, 2028, whatever, on venait à avoir un retracement de moins 30, moins 40, moins 50 ou plus, bien entendu que ça serait intéressant pour nous pour faire la boule de neige. Donc je respecte les deux camps, les très long-termistes qui vont continuer de faire du DCA sans même regarder le prix du Bitcoin et qui regarderont leur poche crypto dans 5 ans, dans 10 ans, ou voire même encore mieux pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. On sait qu'on a des retraités aussi qui ne cherchent pas forcément à s'enrichir pour eux-mêmes, mais qui veulent faire un petit pécule pour le très long terme pour leurs enfants. Donc on leur souhaite bien entendu la meilleure des réussites, mais pour ceux qui jouent un petit peu plus cet aspect annualisé de 2 ans en 2 ans, de 4 ans en 4 ans, bien entendu qu'il y a des coûts à jouer et qu'en général c'est là où vous arrivez à démultiplier un petit peu plus le rendement du côté de vos portefeuilles à partir du moment où vous êtes à l'aise justement sur ce fait de rentrer tous les 1, 2, 3, 4 ans et de ressortir un coup tous les 2 ans aussi à peu près quand le marché a bien monté pour ensuite potentiellement racheter un petit peu plus bas. Ça reste un risque bien entendu à partir du moment où on vend et où on espère se racheter un petit peu plus bas, et il y en a qui parfois ne tiennent pas et même se rachètent plus haut que ce qu'ils avaient vendu, mais voilà, c'est quelque chose qui quand même au long terme permet en général, et ça fonctionne exactement pareil du côté des marchés financiers tels que la bourse et les actions, quand on a des trucs qui sont surcapitalisés, surpondérés ou qui ont fait de très gros bull run, un peu comme le gold actuellement, il y a des moments où il faut savoir prendre ses profits en attendant bien entendu les périodes comme ça qui sont un peu plus compliquées. Et de base, dans tous les cas, je suppose qu'aujourd'hui, avoir un petit côté en cash, que ça soit pour la bourse trad ou pour les cryptos, vu l'incertitude qui règne dans le monde, même par tout temps, je suppose qu'avoir cette petite poche un peu de liquidité, ça permet aussi de dormir un petit peu mieux la nuit et de ne pas se dire qu'on est complètement mis à 100% dans le marché, voire au-delà de 100% pour ceux qui font du levier, et ensuite ça part complètement dans tous les sens. Et c'est ce qui fait qu'aussi psychologiquement, au long terme, vous avez ce poids qui vous ronge quelque part et qui vous fait faire énormément de bêtises. On passe à la seconde crypto-monnaie du marché, Ether, qui là aussi a sauvé les meubles. Donc on était venu autour de 3005, mais quand on regarde sur Binance, je crois que c'était du 3003, 3004. Donc pareil, même Ether est descendu un petit peu plus bas que sur d'autres échangeurs. Donc la zone des 3004, 3005 était intéressante. On a une belle zone de polarité ici. On aurait même pu s'enfoncer un tout petit peu plus à 3002. Le MACD va croiser très haut. Le RSI, bon, est peut-être un peu moins bien orienté que ce qu'on a sur le crypto total. Donc on va voir ce que va donner Ether, mais bon, la dernière fois, on avait vu qu'on est sur potentiellement un bull flag, on l'a réintégré. On n'a pas clôturé en dessous ici de cet énorme support désormais qu'on ne veut pas voir perdu, 4000, 4100. Mais pour autant, ben, ce n'est pas une dynamique qui est super affriolante quelque part pour le court terme. J'espère comme vous tous qu'on va partir en direction des 4009, les franchir et que enfin Ether pourra s'exprimer, ce qui permettrait là aussi très certainement de lancer une alt season. Mais pour l'instant, il faut comme d'habitude, marcher un pied devant l'autre et ne pas avoir des ambitions qui sont trop hautes sur ce cycle. Je pense que c'est ce que l'on retiendra tant du côté des altes que du marché en général. Le Nasdaq, donc, qui avait clôturé à 3,49 en recul et 2,71 pour le S&P, alors que leur futur ouvre dans le vert, mais avec quand même un décalage, 1,32 et 1,60. 78 pour le Nasdaq. Donc là aussi, on va avoir besoin d'un tout petit peu de temps pour savoir exactement qui fait quoi. Le gold de 4065, nouvelle ATH, nouvelle semaine, nouvelle ATH. Voilà, c'est ce qu'on aimerait voir du côté des cryptos, de nos tokens, de nos bitcoins, de tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, bah, les flux sont sur quoi ? Sur Nvidia et sur le gold. Et Nvidia, voilà, c'est la pieuvre Nvidia. Quand je dis Nvidia, c'est tout ce qu'il y a autour, tous les data centers, tout ce qui apporte de l'énergie, des chipsets, les founders, tout, voilà. Même, je pense que, j'ai pas vérifié, mais je suppose que les entreprises qui vendent de la silice pour les chipsets et tout ce qui est électronique, etc., doivent pareil connaître des envolées complètement folles. Donc, c'est toute une industrie hein, aujourd'hui par rapport à l'IA qui en bénéficie, mais c'est ce qui fait que bah, on voit toujours pas le pognon arriver chez nous du côté des crypto-monnaies, malheureusement. Moins de 3% pour le Russell la semaine dernière, ça n'a pas encore réouvert, bien entendu, c'était les low cap américaines. Tout ça, le jour où ça rentrera en bull run, je suppose qu'en simultané, on aura le bull run des altes, mais on voit que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et enfin, le dollar américain qui continue de se stabiliser après un double creux ici, autour des 98 à 100 pour le DXY. On aurait donc en cas de rebond majeur, bah, dans un premier temps, les 100 où il s'est arrêté, et ensuite viser les 103, qui est la médiane de range de la seconde ère Trump. Le haut de range est autour de 110, et sous l'ère Biden, on avait même atteint les 115. Je suppose qu'on ne les reverra pas forcément, les 115, hein, sur ce cycle, vu comment ça part, mais quelque part entre 103 et les 109, ici, allez, peut-être 107, ça pourrait être tout à fait de l'ordre de l'acceptable, notamment en 2026, si jamais on venait à rentrer en bear market et qu'on avait des acteurs qui venaient se réfugier un petit peu plus en cash. Du côté des altes, comme je vous disais tout à l'heure, quasi tous les charts pour Binance ressemblent désormais à ça. Donc, par exemple, Pendle, on est venu à 1.6, on est à 3.7 ce matin. Donc, certes, d'un point de vue purement technique, on a effacé quasiment l'intégralité de la baisse sur bon nombre de tokens. Mais là, aujourd'hui, quand on voit ce genre de mèche, voilà, ça laisse quand même se poser pas mal de questions pour la suite, pour des détenteurs long terme, pour certains altcoins. Je suppose que ça va en motiver plutôt certains à rentrer, sortir, plutôt qu'à de rester collé avec des bagues qu'on ne sait pas si on pourra ventiler, justement, le jour où on en aura besoin. Hein. Donc, c'est ça aussi toute la problématique de cette profondeur de liquidité. C'est exactement ce qu'on a pu observer du côté de Atom Cosmos, donc avec une mèche qui a touché quasiment virtuellement le zéro. Donc là aussi, pareil, on a raccroché quasi le support, voire même on a clôturé en dessous des 3,65. On est à 3,46 ce matin. La personne qui a réussi à placer des ordres ici, je ne pense pas qu'autour de 0,040, il y ait grand monde qui ait réussi à rentrer, mais peut-être à 1$, à 2$. Et voilà, les traders court terme sont en train de gagner un petit peu d'argent sur ça. Mais quand vous voyez ce chart contre le dollar au long terme pour Atom Cosmos, imaginez la tronche que ça a contre Bitcoin. Jamais personne de sensé ou qui veut minimiser son risque ou maîtriser son risque ne va vouloir rentrer là-dessus. Alors, il y aura toujours des traders qui vont dire « Ok, je sais exactement où placer mon stop, je mets un levier à tel endroit, je sais ce que je fais », mais ça va représenter une minorité, une infime minorité. Aujourd'hui, si on prend dans l'intégralité les réseaux sociaux, les personnes qui partagent des charts, les personnes qui se revendiquent dans le trading, etc., je serais curieux de voir au long terme la performance de ces personnes. Et surtout, si elles ont réalisé des gains qui sont des gains qui peuvent changer une vie, pourquoi elles vont avoir le besoin systématique de montrer des captures, voilà, là j'ai réalisé plus 100%, plus 200, plus 300. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de personnes, au contraire, qui sont dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à du pari sportif, donc un coup on gagne, un coup on perd, etc. On a cette adrénaline qu'on revient chercher systématiquement comme un joueur compulsif qui irait au casino ou qui irait tous les matins chercher son ticket à gratter. Et à la fin, c'est des personnes qui, au mieux, si elles sont douées, sont flattes, voire un tout petit peu en gain, voire pour l'immense, immense majorité, j'insiste, vont être en perte au long terme. C'est un jeu, le trading, où si vous restez collé à la prise, vous n'allez pas gagner. Et ceux qui vont gagner, c'est le top 0,01% qui est vraiment câblé pour ça, qui a très peu de, on va dire, de connexion quant à l'aversion au risque. Parfois même, je me demande d'un point de vue purement psychologique si ça ne peut pas être des personnes un peu qui auraient ce truc de sociopathe, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas forcément des émotions ni positives ni négatives, et ce qui fait que bah, on aura des personnes qui seront performantes et complètement détachées de tout biais émotionnel quand il s'agit des biais liés à l'argent. Et Dieu sait qu'il y en a et que chaque personne y est confrontée de manière directe ou indirecte et surtout très différente. Donc j'attire vraiment votre attention aujourd'hui sur ça, sur faire attention à ce dans quoi vous investissez. On voit aussi que le BNB n'a pas pipé puisqu'il est venu à 890$ et on est déjà à 1300. Ça aussi, ça laisse se poser quand même pas mal de questions. Hein. Donc des remontadas comme ça de 50% sur un actif qui est le troisième le plus capitalisé de cette industrie et de ce marché crypto. On a un RSI qui est très très haut. Enfin voilà, il y a un moment aussi, moi personnellement, j'ai commencé à bien sortir même sous les 1000$ et petit à petit, là j'ai quasiment terminé de tout sortir hein, pour le coup. Mais bon, aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont l'air d'être plutôt soutenus ou qui soutiennent leur propre token. Il y en a d'autres où on sent que désormais le soutien n'est plus du tout là et la profondeur de marché et des order books non plus, c'est-à-dire la liquidité hein, tout simplement pour dire les choses en d'autres termes. Et c'est également le cas de Chainlink qui était revenu sur Binance autour de 8$ et qui est de retour à 19. Donc on a fait des amplitudes de plus 100% sur ce mouvement. Comme je vous disais à l'instant, c'est très difficile d'avoir chopé les points bas. Je ne sais même pas pour ceux qui avaient placé des ordres en cas de bear market s'ils ont eu des ordres exécutés. J'ai vu personne s'en vanter sur les réseaux sociaux d'avoir chopé les points bas, donc je suppose que c'était plus virtuel qu'autre chose. Mais par contre, ce qui n'est pas virtuel, c'est le prix qui est descendu aussi bas et qui a liquidé sur le fonds d'assistance de Binance, notamment environ 200-300 millions. Alors ils ont les reins solides, hein, ils peuvent tout à fait absorber, mais ça laisse se poser des questions lors du bear market de jusqu'où on pourrait descendre justement s'il n'y a pas la liquidité sur tous ces tokens. Dans les grands gagnants du moment, on a Zcash, donc qui en 3 semaines est passé de 61 à 300 balles. J'ai vu aussi qu'on avait Synthetix qui est en train de revenir d'entre les morts avec peut-être le perp d'ex au niveau du narratif. Donc je sais pas trop quoi en penser, c'est peut-être le nouveau narratif du moment porté par Hyperliquid. Mais en tout cas, voilà, on a des vieux dinocoins aussi comme Dash dont plus personne ne parlait, très très baissier contre le dollar, donc ultra baissier contre Bitcoin. Il passe de 22$ à 55-56 en seulement 2 semaines. Et Tao BitTensor qui était venu à 245$ qui est de retour à 400. Mais malgré tout, pareil, on est plutôt là sur une downtrend à court-moyen terme. On pourra la renverser si on reprend les 500 balles, on va faire un contre-rond, c'est 492-493. Mais voilà, si on reprend les 500 balles, on renverse la polarité pour Tao et peut-être qu'il se passera quelque chose un peu plus intéressant avec des ATH qui se trouvent entre les 700 et les 780$ avec ce narratif aussi autour de l'IA. Donc c'est pour ça que ça fait partie des dossiers aussi qui ont été vachement soutenus par le marché. Donc comme vous l'aurez compris, un marché complexe, un marché qui pour moi n'a toujours pas suffisamment mûri tant dans son infrastructure que dans la façon dont il est appréhendé par les participants. J'ai plus que jamais la sensation que aussi les échangeurs ne jouent pas le jeu et jouent un peu contre leurs propres clients. Alors ça reste un ressenti qui est somme toute personnel. Certains y verront des opportunités, d'autres finiront par en être totalement dégoûtés. Mais voilà, essayez de ne pas trop garder de crypto sur les échangeurs. Si vous en avez et que vous avez peur d'utiliser un non-custodial wallet de type Ledger, eh bien, n'ayez pas tous vos œufs dans le même panier, vous dispatchez à minima sur 3 grands échangeurs. Les plus grands, si possible, ça sera probablement ceux qui, je l'espère, auront le plus de propension à durer au long terme, bien que, comme on l'a vu avec FTX, bien entendu, tout peut arriver. Et ensuite, bah, petit à petit, faites attention à vous, puisque là aussi, maintenant qu'on a les requins des requins parmi les requins à la table avec les, comme on dit, la mafia en costard blanc, eh bien voilà, ça va devenir de plus en plus complexe, ça va devenir assez difficile à lire. Et comme le disait Christophe Barrault, je crois, une fois dans une émission, j'ai trouvé ça très intéressant, il disait qu'il a été classé dans les top forecasters mondiaux et pas dans la troisième place, hein. C'était le premier pour les dernières années par Bloomberg et il est loin devant la concurrence en plus pour l'Asie, pour les États-Unis et l'Europe, ce qui en fait un des prévisionnistes les plus précis à ce jour. Et il disait quelque chose que j'ai trouvé très juste pour le coup, c'est que déjà quand on essaie de prévoir ce que vont faire les marchés à 2-3 ans, il disait c'est très très difficile, c'est devenu beaucoup plus difficile qu'avant. Et alors quand on essaie de se projeter entre guillemets sur ce que pourraient être les marchés à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il disait ça relève de la cartomancie aujourd'hui, tant les mouvements de marché peuvent être erratiques et exacerbés par un simple tweet des États-Unis États-Unis du président par une news géopolitique qui sort du chapeau, qui est amplifiée, voilà, et qui peut avoir des impacts assez colossaux. Et c'est exactement ce qu'on a vu là, nous, pour le marché crypto, et qui démontre que encore aujourd'hui, eh bien, malheureusement, cette industrie n'est pas complètement prête, n'est pas complètement mûre pour accueillir beaucoup plus de participants. Ça se fait à la dure, lentement, mais sûrement, certes, et notamment du côté de Bitcoin, pas de souci. Par contre, en termes d'industrie crypto, au sens large du terme, c'est quand même assez complexe de se dire qu'aujourd'hui, à l'époque, certes, on nous mettait des bâtons dans les roues au cycle précédent, il y avait Gary Gensler, etc. Toutes les banques crypto se faisaient fermer, enfin, c'était vraiment la guerre avec la SEC. Aujourd'hui, on a un cadre qui est complètement ouvert et un peu comme disait Grégory Raymond, plus de contre-pouvoir et plus de pouvoir tout court, puisque même la SEC, ils pipent plus un mot, ils acceptent tout, enfin tout va bien dans le meilleur des mondes. La question que je me pose, après avoir autant tout ouvert, c'est quel sera le retour de Boomerang lorsqu'il n'y aura plus l'administration Trump pour pousser dans le sens du vent, et surtout un vent qui pousse très largement vers leur portefeuille personnel, puisque on a vu notamment Baron Trump, un de ses fils qui s'est enrichi en dizaines, voire en centaines de millions depuis le début de l'investiture de Papounet. Je vous souhaite une excellente journée. Peut-être que ce soir on fera un live, mais pas encore sûr. Je vous tiens au courant dans la journée du côté du Discord ou de Twitter. Mais bon, voilà, on va essayer petit à petit aussi de temps en temps de reprendre les lives. C'est cool de pouvoir échanger en direct. Et dans tous les cas, comme vous l'aurez compris, pour ceux qui ont déjà pris des profits, je suppose que l'asymétrie du risque aujourd'hui d'un Bitcoin à 120-125 000 vaut le coup d'avoir du cash de côté. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument tout bazarder, mais ça veut dire qu'il faut avoir une gestion du risque qui fait que, en l'état, si ça dérape, vous serez content d'en avoir un petit peu, moyennement ou beaucoup, en fonction de votre tolérance au risque. Et si jamais le Bitcoin va un petit peu plus haut, vous gardez malgré tout une exposition. Et pareil du côté des altcoins que vous aurez scrupuleusement trié sur le volet. Très bonne journée, très bon lundi et à plus tard. Ciao, ciao.